Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanu
et bienvenue dans cette 54e émission,
édition 2023.
Tout au long des années qui se sont écoulées depuis 1842, date à laquelle les Français s'étaient installés jusqu'en 1879, que nous avons survolé la dernière fois, passant de l'appropriation à l'abandon, du laisser-aller des uns à la répression conjointe de l'Église et de l'État, survivant aux assassinats pour mourir d'épidémie, d'alcoolisme et de tuberculose pulmonaire, Pococo, en 1880, le peuple de la Terre des Hommes est sur les genoux. Si les Enana du Nord semblent subir en silence, les Enata du Sud, au moins trois fois plus nombreux et sans administration à proximité, ne veulent plus rien entendre du colonisateur. La guerre est proche. En 1880, dès le début de l'année, à Hiva'oa, les colons français signalent l'hostilité croissante des Enata. Les Européens n'osent plus s'aventurer dans l'île. La garnison de Taha'uku elle-même est contrainte à la plus extrême prudence. Si le groupe Nord ne pose pas de problème, l'administration est impuissante au Sud. Le 11 janvier, pourtant, la mission ouvre une école à Waitahu. Le 4 avril,
c'est la mort de Mahe'ono,
ancien chef de Tahuata, qui avait succédé à Iotete, son oncle, en 1842. Dans leur livre magnifique intitulé « Le tatouage aux îles Marquises », Pierre et Marie-Noël Otino-Garanger
écrivent à propos de la mort de Mahe'ono que, je cite,
« Capturé et mis à mort par trois guerriers Pahatai de Puama'u, sa tête, dépecée, est offerte sur le site sacré, au pied du piton Toea, en marge du Me'ae I'ipona de Puama'u. » Et je rajoute que pas plus que Yotete, faute de grand prêtre Tau'a à ses côtés, il ne sera pas divinisé. Depuis le départ des Français en 1847, l'anarchie s'installe à Tahuata, où les chefs de Waitahu et de Hapatoni, quoique frères, ne cessent de s'opposer. Panao parvient même à un moment à s'emparer de l'autorité sur la quasi-totalité de l'île. Finalement, chassé à cause de sa tyrannie, il se réfugie à Hiva'oa, puis à Nukuhiva. En début d'année, le nouveau gouverneur Chessé envoie son officier d'ordonnance à Hiva'oa pour notifier à la population sa prise de commandement à Tahiti. Les Enata répondent par le mépris, signifiant même qu'ils sont prêts à la guerre. La réponse du commandement ne tarde pas. Le 23 juin, l'amiral Bergaz du Petit Thouar arrive à Hiva'oa pour restaurer l'ordre. Il est le neveu d'Abel du Petit Thouar qui avait annexé les Marquises en 1842. Il est accompagné du navire La Victorieuse avec 400 hommes, le Daio avec 160 hommes, le chasseur avec 160 hommes et un détachement de 20 Tahitiens, commandé par Tamatoa, fils de la reine Pomare IV, ainsi que de 200 Enana des îles du Nord, conduits par Stanislas Muanatini,
grand chef de Nukuhiva.
Avec presque un millier d'hommes sur le terrain, la pacification de l'île s'effectue sans effusion de sang. Surpris dans leur vallée, les Enata de Hiva'oa rendent les armes sans combattre. Comme il avait plu, leurs cartouches étaient détrempées et ils ne purent jamais se servir de leurs fusils, dont 600 seront confisqués dans les jours qui suivront. Le 29 juin, le protectorat de Tahiti devient une colonie. Cette date marque désormais la fête de l'autonomie de la Polynésie française. Le 30 juin, l'amiral du Petit Thouar proclame la pacification totale de Hiva'oa. Il lui a fallu 7 jours. Le 11 juillet, dans un ordre du jour, le même amiral exprime sa satisfaction de voir les îles de Hiva'oa et Fatuiva soumises et désarmées et la paix régner partout aux Marquises. Il met l'accent sur la fraternité qui a réuni dans l'action les Tahitiens, les Enana et les Français. Quelques Enata sont internés, puis transportés à Tahiti, où ils participent, contre rémunération, à des emplois de travaux publics et à la construction du fort de Taravao. L'état de siège est décrété dans le groupe sud-est. Il sera levé le 1er mars 1882. L'amiral installe 3 postes militaires d'une vingtaine d'hommes chacun. Le premier est installé au fort Fa'akua de Tahaouku et le deuxième à Puamau.
Le troisième s'installe à Omoa sur Fatuiva.
Afin de favoriser le maintien de l'ordre dans les trois îles du Sud, l'officier commandant le détachement de Fa'akua reçoit le titre de vice-résident des îles Marquises, avec toutes les attributions du résident de Taiohae, mais pour le groupe Sud seulement.
Le fils de Mahe'ono,
Miti'efitu,
avait été élevé à Hiva'oa par un missionnaire protestant.
Travailleur et intelligent, il parle bien l'anglais et le français, ce qui lui permet de retrouver sa place de chef de Vaitahu
et Hanami'ae,
où après 1880, et grâce à son influence considérable, il rend de grands services au chef de poste.
Elisabeth et Ritapeta
Fei'autini
Vaikehu Pokotitipu Mahe'ono,
fille aînée de Stanislas Monatini,
âgée de 15 ans,
est installée chefesse de Vaitahu et des vallées de la côte ouest, en même temps qu'elle devient grande chefesse de Tahuata.
Dans son livre « Souvenirs des îles Marquises, groupe sud-est 1887-1888 », publié à la Société des Océanistes en 2004, le vice-résident des îles Marquises, Albert Testard de Maran, écrit que les Français appellent Vaikehu la petite reine et il précise que son indemnité annuelle est de 145 francs 50 par an, tandis que Miti Efritu, lui, ne reçoit que 97 francs et les autres chefs secondaires, 48 francs 50 par an. C'est à la page 42 de son livre.
Le 17 juillet, du Petit Thouars rend un rapport à son ministre de tutelle dans lequel il explique que, et je cite, « les abus d'alcool, la débauche et l'opium ont conduit les malheureux marquisiens à une démoralisation effrayante. On ne peut être plus lucide. » Il ajoute, et je cite encore, « on ne fera rien pour l'avenir si l'on ne prend les enfants en main. » Et donc, il suggère d'installer 3 sœurs à Puamau et 3 sœurs à Vaitahu, où seraient réunies toutes les petites filles de chaque île. Puis du Petit Thouars abolit le tapu de certains lieux, interdit l'alcool, confisque les armes, en interdit la vente et la circulation, limite la circulation des personnes, oblige les parents à envoyer les enfants à l'école, occupe les hommes à la construction des routes et décrète l'égalité des catholiques et des protestants. C'est à partir de cette année-là que les parents sont chargés de fournir la nourriture et les vêtements de leurs enfants internes. Pour contrer les agissements de certains missionnaires, il interdit aussi d'employer d'autres monnaies que celles d'or et d'argent. Et Greg Denning nous dit « Le calme qui suivit les convulsions n'avait d'égal que le silence des vallées. Les Enata se voilèrent d'un masque de silence au regard indifférent. La violence qui avait autrefois assuré leur survie provoquait aujourd'hui leur ruine. » La mission protestante hawaïenne aux Marquises est abandonnée, mais Kekela restera jusqu'en 1899. Le 30 décembre, les sujets de Pomarez 5 deviennent citoyens français par le don des îles de la Société à la France. La colonie prend le nom d'établissement français d'Océanie, EFO.
Ya, hobby, 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 hob
1881, le 9 juillet, après une mission aux Marquises, le contre-amiral Brossard de Corbigny rencontre à son ministre. Il suggère que les enseignants devraient tous parler français et kanak, comme seuls les missionnaires et les frères déjà présents savent le faire. Il suggère encore de reconnaître officiellement la mission des Marquises, dont les membres, placés sous l'autorité du résident, deviendraient fonctionnaires de la colonie. À Hivaoa, les Ha'amau de Ututehe se rebellent. Leurs terres sont confisquées. Une partie de la vallée sera achetée au début du XXe siècle par la Compagnie navale d'Océanie de Bordeaux pour y élever des bovins. En 1882, le 3 janvier, un arrêté institue aux Marquises un comité agricole et industriel. Il ne sera effectif qu'en 1884. Ce même mois, dans sa remise de service, le successeur de Bergasse du Petit Thouars dresse un tableau des Marquises conforme et identique à la situation décrite en 1880 par son prédécesseur auquel il reconnaît tout le mérite du succès. L'ordre français règne aux Marquises. Les routes sont en voie de réalisation, la culture du coton s'intensifie et surtout une sécurité remarquable règne partout, encadrée par l'omniprésence de la gendarmerie. L'état civil est réorganisé dans la colonie. Les Enanas doivent se choisir un nom de famille et se munir d'une carte d'individualité. Le 1er mars, l'état de siège est levé à Hivaoa. Une justice de paix à compétences étendues est créée dans le groupe Sud. Grâce à cette scission administrative totale, le groupe Sud devient une entité administrative indépendante du groupe Nord. Cette dualité de gestion durera jusqu'en 1888. Le 12 avril, après une visite aux Marquises, le gouverneur d'Orlodo des Essarts fait un rapport à son ministre dans lequel il explique que les écoles sont tenues par des missionnaires catholiques ou protestants, mais que ces derniers étant hawaïens, on disait « sandwichiens » à l'époque car les îles Hawaï se nommaient alors « îles sandwich », ces derniers sandwichiens donc n'enseignent pas le français. Sacrée découverte! Ça veut dire que tous les élèves protestants n'apprenaient pas le français mais l'anglais ou peut-être le hawaïen, qui sait? Aloha! Il écrit que l'école est obligatoire de 16 à 13 ans, que tous les enfants sont internes, que les parents n'ont rien d'autre à fournir que la nourriture et les vêtements, comme s'ils étaient à leur charge directe. Le gouverneur termine en disant que les résultats sont satisfaisants. Au moins. Le 20 juin, le ministre répond au gouverneur qu'il doit exiger l'enseignement du français dans les écoles protestantes. Évidemment. En conséquence, un instituteur français, Amédée Saran, vient seconder le pasteur Kekela à Puamaou. Il aura 80 élèves en 1884 et 100 en 1891. Mais Saran tombera malade et l'école sera fermée. L'envoi d'instituteurs publics grève le budget de la colonie qui diminue alors les moyens destinés à la mission. C'est aussi en 1882 que le frère Sébastien Akar est installé instituteur à Puamaou, où il restera jusqu'à sa mort en 1896. C'est le gendarme qui, informé par le vice-résident, fixe les dates des vacances. Les parents doivent fournir 1,5 kg de popoy par jour et par enfant, 500 grammes le matin, 500 grammes pour le midi et 500 grammes pour le soir. La pesée se fait en présence du chef de la vallée ou du moutoy et d'une personne de l'école. Le frère Akar sera reconnu par tous pour sa valeur éducative et son abnégation, allant lui-même chercher de la nourriture dans la nature en cas de pénurie. Le 25 novembre 1894, en pleine famine, afin de pouvoir nourrir les enfants de l'école dont il avait la charge, il écrit avoir dû sacrifier son chien bulldog, appelé numéro 6. À la fin de l'année, un état des effectifs des écoles des îles du Sud constate la présence de 384 enfants dans les écoles, 280 catholiques et 104 protestants. Le 6 novembre, tremblement de terre ressenti à Taiohae. Après 6 mois passés dans l'archipel, le médecin militaire Clavel dit qu'il n'est pas un pays au monde où la lèpre soit aussi répandue qu'aux îles Marquises. Mais la mobilisation contre la maladie va encore attendre. En 1883, Le 25 janvier, le résident Robert insiste auprès de Monseigneur d'Ordillon pour que les enfants restent à l'école jusqu'à ce qu'ils parlent et comprennent le français. Un peu plus tard, il lui demandera de choisir un bon élève pour seconder le docteur Roussin. En février, le gouverneur des Essarts de Tahiti est en tournée d'inspection aux Marquises. Le 14 juin, dans sa lettre de renseignement sur les Marquises, le gouverneur fait part de son optimisme au ministre de la Marine et des Colonies. Il n'évoque plus aucun problème de sécurité et met l'accent sur un développement notable. On récolte le coton, le copra, le café et le tabac. On élève des bovins, des porcs et depuis peu des ovins, les moutons. Une goélette de 40 tonneaux sort d'un chantier naval de Hatiheu. Le réseau routier a doublé. À Rivaoa, un chemin de crête relie Tahauku à Puamaou. À Taipiva, une fois cadastrées, les terres de l'ex-compagnie Stewart sont rachetées et exploitées par les Enan. La carte d'individualité avec le nouveau nom de famille est imposée aux Enan. Le gouverneur constate que leur état matériel et moral s'est amélioré. On voit des cases neuves et bien entretenues. Le costume tahitien, chemise pantalon et chapeau est porté par tous les hommes. La confiance mutuelle est revenue, portée par la gaieté et l'empressement sympathique des Enana et des Enata à faire ce qu'on leur demande. Mais le gouverneur des Essarts constate qu'ils apprécient plus les conseils que les ordres. Ça, c'est nouveau. Seul l'enseignement ne suit pas cette évolution positive. Néanmoins, en raison d'un manque d'ouvriers européens sur place et grâce à l'aptitude particulière des indigènes aux travaux manuels et à l'artisanat, il est permis d'envisager la création d'une école professionnelle à Taiohae. Mais d'autres témoignages ne sont pas aussi optimistes et il semble qu'on n'ait pas jugé bon de tout montrer au gouverneur lors de sa tournée d'inspection en février. Le recensement effectué cette année-là donne 5576 habitants
aux îles Marquises contre 6012 en 1875, soit une baisse de 436 Enana Enata en 8 ans.
Chers amis, après des décennies d'anarchie, la pacification s'est effectuée sans effusion de sang. L'ordre français règne sur la terre des hommes, sur laquelle l'État semble se pencher désormais avec plus d'attention. Mais cela va-t-il durer? Pour le savoir, ne manquez pas la prochaine émission, au cours de laquelle nous verrons les 6 premiers conseillers généraux des Marquises siéger à Tahiti, l'ouverture du pensionnat des sœurs d'Atuona, la réforme du régime foncier et aussi la mort de Monseigneur d'Ordillon. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises.
Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo
et sur mon site internet teeo.com. Et merci au groupe Kanahau Trio pour sa chanson Maheata, nom d'une jeune fille qui occupe les pensées du jeune homme qui la chante. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.